France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et en cette semaine où les derniers soldats américains ont donc quitté le pays, le grand entretien du 7-9 ce matin sur l'Afghanistan. Deux invités pour en parler. Le premier est écrivain et réalisateur, le second historien. Avec Léa Salamé, nous attendons évidemment toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour Atik Raimi.
Bonjour.
Vous avez quitté l'Afghanistan en 1984, reçu le prix Goncourt en 2008. Vous êtes revenu très souvent ces dernières années dans votre pays pour y donner des cours, former des Afghans au métier du cinéma et y créer aussi une chaîne de télévision. Ces dernières semaines, vous avez travaillé à la protection et à l'exfiltration d'artistes et d'intellectuels afghans avec leurs familles. Jean-Pierre Filiu, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Spécialiste du Moyen-Orient, votre tout dernier livre vient de sortir aux éditions du Seuil. Il s'intitule « Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours ». Alors on va évidemment entrer avec vous dans le détail de la nouvelle donne en Afghanistan, ses conséquences humaines, ses répercussions géopolitiques. Mais avant cela, maintenant que les ambassades ont fermé, que les soldats américains sont partis, que des Afghans directement menacés ou ayant travaillé avec les Occidentaux ont été évacués, que les talibans sont au pouvoir, à quoi va, à quoi peut ressembler la vie des Afghans dans les semaines, les mois qui viennent? Qu'est-ce qui se dessine selon vous, Jean-Pierre Filiu?
Alors d'abord, je crois qu'il faut faire une distinction très nette hein, entre la débâcle catastrophique des États-Unis et la réalité de la souffrance terrible du peuple afghan, parce qu'on entend une petite musique à Washington visant quasiment à culpabiliser les Afghans. Ben, pendant 20 ans, on a été gentil, on a voulu vous aider, on a voulu vous développer, et puis vous n'avez pas été au niveau, donc on s'en va. Voilà, la réalité, c'est cette douleur, cette souffrance du peuple afghan qui a été abandonnée. Dans les conditions que maintenant on connaît tous.
Mais cette musique, cette petite musique qui monte à Washington, qui monte aussi dans les capitales européennes, est totalement fausse à vos yeux, c'est-à-dire que ce qu'on entend sur pourquoi ils veulent fuir et pas défendre leur pays contre les talibans, ils n'ont pas été capables de créer une armée en 20 ans, tout ce qu'on entend là, cette petite musique-là, pour vous, elle est totalement fausse?
Parce qu'il faut bien distinguer le discours d'auto-justification des États-Unis qui a distingué des Européens. Les Européens ont vraiment essayé d'implanter des institutions. Si on prend le budget faramineux englouti par les Américains en Afghanistan, il était essentiellement militaire et quand il ne l'était pas, il était largement pour des consultants ou des entreprises américaines. Il n'y avait pas réellement de diffusion dans le pays. Donc à partir de maintenant, il y a malheureusement deux choses qui sont sûres. La première, c'est que la prochaine saison de l'opium, donc dans quelques semaines, va être historique, avec une récolte au printemps prochain, qui devrait sans doute, vu que les talibans auront besoin de cash, amener un niveau record d'héroïne dans le monde entier, vu que plus de 90% de l'héroïne mondiale provient du pavot afghan à très forte teneur en morphine. Et la deuxième réalité incontestable, c'est que l'État islamique, hein, donc Daesh, la branche locale, qui a ensanglanté Kaboul vendredi dernier, va servir de repoussoir pour les talibans qui de toute façon veulent le liquider parce que c'est une branche dissidente de leur mouvement, et qu'ils pourront dire, vous voyez, nous collaborons contre le terrorisme. Quant à la réalité de la soi-disant modération des talibans,
alors on va y venir.
Voilà, moi j'ai Je suis très sceptique.
Justement.
Et on aura de moins en moins de canaux pour la vérifier si elle existe.
On a pu entendre que les talibans ont changé, auraient changé, que ceux de 2021 ne sont pas les mêmes que leurs prédécesseurs qui avaient dirigé le pays entre 1996 et 2001. Aujourd'hui, donc, ils communiquent, ils veulent montrer patte blanche, ils seraient plus modérés. Vous y croyez, Atik Raimi, ou c'est de la foutaise?
Écoutez, si vraiment les talibans changent, moi je deviendrai un taliban. Hein. Bien sûr, non, je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Évidemment, aujourd'hui, ils sont obligés de montrer un visage de bon enfant, très clément, etc. Mais de l'autre côté, quand on voit des villes qui étaient tombées bien avant qu'ils ne prennent Kaboul, ces villes-là, était vraiment était terrorisé par l'arrivée des talibans. Il y a eu des massacres, il y avait des justement des journalistes et des poètes et des musiciens ont fini de tabasser, etc. Donc non, je crois pas. Maintenant, on attend vraiment la construction de leur gouvernement et à partir de là, oui, ça va être très compliqué.
Ouais. Dans la série du Le visage bon enfant qu'ils essayent tant bien que mal de montrer, vendredi dernier, un cadre taliban à Doha, au Qatar, a déclaré que les femmes avaient le droit inné de travailler, elles peuvent étudier, elles peuvent participer à la politique et elles peuvent faire des affaires. Reporters sans frontières nous apprenait hier que sur les 700 journalistes femmes afghanes, il en reste moins de 100 aujourd'hui à Kaboul. En 15 jours, il y en a moins de 100. Toutes ces déclarations, les femmes peuvent travailler, elles sont crédibles ou pas du tout, puisque on se rappelle quand même que les talibans, c'était les femmes n'ont pas le droit de travailler, les femmes sont à la maison. Et donc, qu'est-ce qui va se passer selon vous, Jean-Pierre Filu? On peut le croire ou dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on ira dire à la femme fonctionnaire, à la femme étudiante, t'es gentille, tu rentres chez toi et c'est ton frère qui vient te remplacer demain?
Une des grandes faiblesses, hein, des échecs absolus des Américains, c'est qu'on ne sait au fond rien sur l'organisation interne des talibans. C'est quand même incroyable. Hein. Après 20 ans à lutter contre eux, on n'est pas capable d'avoir un organigramme sérieux du mouvement et on ne sait pas si cette personne qui s'est exprimée sur les femmes pèse réellement au sein du mouvement. Donc c'est une organisation opaque. Il faut savoir si elle fera le geste d'un gouvernement dit inclusif, hein, donc avec des personnalités qui ne seraient pas talibanes. Mais une fois qu'on aura dit tout ça, il est certain qu'au niveau local, dans les provinces, dans les campagnes, les chefs talibans locaux auront sans doute toute latitude pour appliquer ce qu'ils croient être juste.
Mmh. Si on prend qu'un seul exemple, celui que donnait Reporters sans frontières hier, RSF qui nous apprenait que sur les 700 femmes journalistes afghanes, moins de 100 travaillent désormais à Kaboul. Un certain nombre ont été purement et simplement renvoyés des médias qui les employaient et d'autres ont été consignés à la maison, comme le disait Léa à l'instant, sur le destin des femmes, le sort des femmes à Tikraïmi. Que dites-vous ce matin?
Écoutez, encore une fois, donc ils sont au début de leur gouvernement, donc ils peuvent dire justement ce genre de truc. Mais non, ça va être compliqué parce qu'ils sont très clairs sur leur objectif, c'est l'application de la loi charia. Donc la loi charia, donc
voilà, les femmes à la maison,
les femmes à la maison, etc. Donc peut-être ils vont faire quelque chose. On est en train de changer l'identité d'un peuple, l'identité d'un pays, l'identité d'une culture. Donc peut-être ils vont amener l'Afghanistan vers une sorte de voilà, comme ils ont déjà changé le titre de pays, donc l'Émirat d'Afghanistan.
Donc l'Afghanistan n'existe plus, c'est l'émirat d'Afghanistan.
Malheureusement, oui.
C'est ce que vous dites, vous dites oui. L'Afghanistan, mon pays, n'existe plus.
Oui, j'ai bien peur. J'ai bien peur parce que cette fois-ci, les talibans, ils ne sont pas venus comme en 96. Ils sont venus avec une autre manière de voir, dans un autre ordre géopolitique, soutenu par des grandes puissances, la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, vous voyez. Donc, voilà, ils sont au pouvoir, comme c'était le cas en Iran. Vous voyez, quand il y a eu la révolution iranienne, au début, évidemment, tout le monde était ravi, les gens de gauche, etc., etc. Mais après, on a vu ce qui s'était passé. Et voilà.
Donc là, cette fois-ci, vous êtes désespéré, en fait.
Oui. Pourquoi? Parce que je sais que maintenant, les islamistes, les djihadistes, un peu partout dans le monde, ils disent voilà, c'est possible. De la même manière, quand les Iraniens ont fait la révolution islamique, le monde musulman a dit c'est possible de faire une révolution avec l'islam, à travers l'islam. Ça sera pareil. Et on va avoir, malheureusement, des jours un peu dur.
Vous avez une thèse, Jean-Pierre Filu, qui contrôle le Moyen-Orient, contrôle le monde. Que donne cette thèse appliquée à la situation afghane aujourd'hui? Les Américains partis, quelle est l'alternative? Qui va reprendre la main? La Chine, disait Atik Raimi peut-être à l'instant. La Russie, qui, selon vous?
Je pense qu'il n'y a justement pas d'alternative, d'où cette situation de chaos plus ou moins contrôlé, qui laisse aux prédateurs régionaux ou locaux, comme les talibans, la possibilité possibilité d'incarner une forme de nationalisme et ou de résistance. Effectivement, quand on voit dans l'histoire, le Moyen-Orient est un réservoir de puissance pour affirmer son hégémonie ou son statut privilégié à l'échelle mondiale. Le dernier chapitre de mon livre, Vie et mort du Moyen-Orient américain, 1990-2020, malheureusement, la conclusion est encore plus accablante avec l'Afghanistan. Mais il n'y a plus de puissance structurante. On voit bien que la Chine fait dans le business partout, ce qui ne peut pas tenir lieu de politique, avec des alliances et des partenariats tout à fait contradictoires entre l'Iran d'un côté et les pétromonarchies du Golfe de l'autre. Quant à la Russie, elle a épuisé ce qu'elle pouvait projeter dans la région, dans la guerre de Syrie, où elle a été incapable jusqu'à ce jour de stabiliser le pays et d'y ramener un semblant de concorde. Et on a vu qu'en Libye, elle a été expulsée en quelques semaines par la Turquie, ce qui, pour la Russie, n'est quand même pas formidable.
Donc la débâcle américaine n'est pas, à vos yeux, synonyme forcément de victoire des Chinois, géopolitique des Chinois.
Non, il n'y a pas de vase communicant. Et parce que les Chinois ne sont pas prêts à mobiliser les instruments de puissance que sont l'armée et que sont les différents engagements humanitaires. Pour eux, c'est l'investissement économique et c'est la diplomatie d'influence. Or, on ne peut pas être une puissance globale et on ne peut pas peser au Moyen-Orient quand on s'interdit, je suis désolé d'être aussi clair, d'y perdre des soldats.
On va aller au standard de France Inter parce que vous êtes extrêmement nombreux à vouloir vous exprimer sur l'Afghanistan. Commençons avec vous, Marc. Bonjour.
Oui, bonjour à Nicolas Demorand, bonjour à Léa Salamé, bonjour à vos invités. Merci d'avoir pris ma question. La question, elle est simple et courte. Monsieur Ahmad Massoud me semble être une personnalité tout à fait intéressante. Et sa résistance dans le Panjshir peut-elle être durable et peut-elle être un espoir à terme ? Merci.
Merci Marc pour cette question. La vallée du Panjshir où le fils du commandant Massoud poursuit effectivement la lutte avec ses hommes. Ils ont repoussé deux offensives ces derniers jours. Qu'en pensez-vous ? Comment répondre à notre auditeur, Atik Raimi ? Une résistance peut-elle s'organiser ou est-ce une illusion ?
Ouf. Bah écoutez, nous, quand j'entends tout ça, ça fait peur, encore une fois. Parce que on a vu tout le côté de la résistance durant ces 40 dernières années. C'était pas très brillant. Et là non plus, je crois pas. Et parce qu'encore une fois, les talibans sont venus avec une autre force, cette fois-ci. Et ils se font massacrer dans les vallées de Panjshir, malheureusement. Parce que... ils ont déjà, malheureusement, les Afghans, ils font plus confiance à la résistance. C'est ça le problème.
Pourquoi ?
Ben écoutez, d'abord, avec la sortie de l'armée rouge en Afghanistan, on a vu ce qui s'était passé. Il y a eu une guerre civile entre le nord et le sud, entre les chiites et les sunnites, etc. Donc, même à ce moment-là, le commandant Massoud qui avait pris le pouvoir, qui était le ministre de la Défense, il a quand même aidé Sayaf pour détruire justement le quartier des chiites, etc., etc. Donc, les Afghans, ils ont une certaine méfiance à l'égard de la résistance de cette époque-là. Ensuite, vous voyez, les talibans aussi, quand ils sont arrivés en 96, ils étaient acceptés par les Afghans. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient marre de cette guerre civile qui tuait pourtant en 4 ans tout ce qu'on a détruit à ce moment-là. Et aujourd'hui, vous voyez, tout ce qui s'est passé des alliances avec la résistance et le gouvernement corrompu de Karzai puis de Rani, etc. Comment vous voulez qu'on fasse confiance ?
Donc la solution, c'est les talibans, quoi. Si je suis un Afghan aujourd'hui, si je vous écoute...
Non, la solution, c'est les pays voisins. Pakistan. Pakistan d'abord.
Ouais. Ça veut dire quoi ?
Parce qu'ils sont soutenus, c'est les talibans, ils en sont comment ? Vous voyez, où ils étaient, d'où venait leur argent ? Qui les supportait, les soutenait ? Pourquoi on n'avait pas mis tant de pression sur le Pakistan à l'époque, sur l'Arabie Saoudite ? Et même l'Iran les a aidés, voyez ?
Jean-Pierre Filu ?
Oui, effectivement, une fois rappelé avec la plus grande force que je ne crois pas du tout à la soi-disant modération des talibans, il faut accepter qu'aujourd'hui, ils ont deux sources de légitimité, le nationalisme, qu'ils ont pu opposer à des États-Unis perçus comme des occupants, et le fait qu'ils ramèneraient la paix après quatre décennies de conflit. Et donc, ils vont faire fond là-dessus, je crois, avec beaucoup d'intelligence et de cynisme.
On a une question au standard sur les pays voisins de l'Afghanistan. Guy, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Oui.
Voilà, ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelles sont les relations de l'Afghanistan avec ses pays voisins, en particulier l'Iran, mais également les pays du Nord, tels que le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Alors ma question est motivée par le fait que les personnes qui veulent fuir l'Afghanistan pensent principalement à l'Occident, alors qu'ils ont des pays à côté de chez eux, dont la densité de population est relativement faible, et qui, à mon avis, pourrait les accueillir dans de bien meilleures conditions que chez nous.
Merci Guy pour cette question. Jean-Pierre Filiu vous donne des éléments de réponse.
Très simple, les talibans contrôlent les frontières. Donc ça veut dire qu'à supposer que on veuille aller vers ces pays voisins, les talibans ne le laisseront pas faire. C'est pour ça qu'il y a une telle pression sur l'aéroport de Kaboul.
Et autre chose aussi, voyez, les Pakistanais, ils soutiennent les talibans, ils ne veulent pas justement recueillir les Afghans, les opposants du régime taliban. La Russie, il a peur, par crainte, et l'Iran aussi. Donc, non, il n'y a pas une alternative pour fuir l'Afghanistan, malheureusement.
Jean-Pierre Filiu, pensez-vous, je prolonge la question de notre auditeur, que la chute de Kaboul peut entraîner une crise migratoire comparable à celle de la Syrie en 2015?
Pour les raisons que je viens d'évoquer, hein, le contrôle par les talibans des frontières terrestres, je ne le crois pas, parce qu'on n'a pas cette proximité. Il suffisait, si j'ose dire, d'aller en Turquie et dans les Balkans pour atteindre l'Europe quand on était syrien. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Ce seront sans doute des flux qui s'inscriront dans la durée, des mois, voire des années. De nouvelles filières, de nouvelles routes, mais je ne crois pas en toute humilité qu'on aura une vague comparable.
On retourne au standard. Frédéric, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour à vous. Bien écoutez, moi je suis totalement incompétent à la matière, donc j'espère que nos invités vont nous éclairer. Moi je me demandais pourquoi les talibans avaient si facilement gagné. Est-ce que ce n'est pas simplement, contrairement à ce que disait notre premier intervenant, parce que les Afghans, quelque part, l'ont bien voulu, et je pense en particulier aux chefs de guerre dont on ne parle pas beaucoup, qui eux, me semble-t-il, avaient la possibilité financière et militaire surtout de résister, et il semble qu'ils aient accepté la présence des talibans, sûrement, en espérant garder une part de leur pouvoir local. Qu'en pensez-vous?
Merci Frédéric pour cette question. Atik Raimi, qu'en pensez-vous?
Écoute, moi je ne suis pas historien géopolitique, parce que votre question, c'est... On va, oui, comme j'ai dit
c'est
tout à l'heure...
C'est l'idée du consentement, que disait
oui,
Frédéric.
Je vous dis, ils ont accepté l'arrivée des talibans de cette manière très facilement. C'est juste parce que ils pouvaient plus continuer avec le régime d'Orani, le régime assez corrompu. Voilà. La question est simple. Et l'insécurité, les talibans qui menaient à chaque fois des attentats suicides, etc., les Afghans n'en pouvaient plus, vous voyez. Donc, malheureusement, non, on n'a rien fait pour empêcher les talibans de rentrer en Afghanistan. Jamais, malheureusement. Ils étaient toujours présents. Toujours.
Et je prolonge la question de Frédéric, Jean-Pierre Filiu. Est-ce que les talibans n'incarnent pas le nationalisme aux yeux des Afghans? C'est aussi ça le fond de la question.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont eu l'intelligence, alors est-ce qu'ils ont planifié ça avec l'armée pakistanaise ou pas, de commencer leur offensive dans des zones qui ne leur étaient pas acquises historiquement, dans le nord du pays, qui auparavant était le bastion de la résistance. Et dans ce nord du pays, les seigneurs de la guerre qu'évoquait votre intervenant, eh bien, ils étaient largement liés au trafic de l'opium. Ils avaient mis de côté des fortunes assez conséquentes. Ils ont été les premiers, non pas seulement à refuser de combattre, mais à fuir avec l'argent qu'ils avaient acquis de toutes ces années de trafic.
C'est en tout cas une question qui revient même sur l'appli de France Inter. Patrick, pourquoi a-t-on l'impression que les Afghans ne résistent pas aux talibans? Rémi, Jean-Pierre Filiu n'a pas répondu à la question de la responsabilité des Afghans sur l'état de leur pays. Et vous avez lâché, me dit-il. Je vous donc repose la question.
Mais c'est... Il y en a pour tout le monde.
Il y en a pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est cette impression-là que, qu'on voyait qui est au-delà de la petite musique, qui est l'idée que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu plus de résistance, pourquoi est-ce qu'ils ont pris Kaboul aussi facilement, quoi.
Parce que d'un côté, il y avait une force qui était structurée autour d'un projet politique, et de l'autre, il y avait une espèce de cartel d'intérêts qui était tenu à bout de bras par les États-Unis, qui en 20 ans n'avaient pas réussi à implanter des institutions durables parce qu'ils n'avaient pas voulu correspondre au mode d'organisation du pays. Et puis, rappeler, ça peut paraître énorme, mais une partie de l'armée afghane n'existait que sur le papier, avec des soldes qui étaient versés pour des militaires fictifs et qui étaient empochés par les officiers. Donc, au moment des combats, il y avait les forces spéciales, mais l'armée afghane elle-même, qui en plus n'avait plus le soutien aérien des États-Unis, eh bien, elle s'est débandée.
Atik Rahimi, vous voulez dire un mot?
Je remets en question d'abord les Afghans, bien sûr. Les Afghans, tous les hommes politiques afghans, tous les seigneurs de guerre, tous les trafiquants de drogue, bien sûr. Ensuite, évidemment, vient la responsabilité américaine et puis les voisins, oui.
Au standard, c'est Elisabeth qui nous attend. Bonjour, bienvenue.
Bonjour tout le monde. Les Américains ont été critiqués en arrivant, type ingérence et davantage. Leur départ annoncé il y a 2 ans environ a soulevé de lourds reproches, abandon, etc. Sachant que ce phénomène peut se produire pour d'autres nations intervenant dans d'autres pays, je pense notamment à la France, au Mali ou ailleurs, je tiens à préciser que je ne suis nullement une pro-américaine vaille que vaille.
Bien compris. Pardon, vous avez terminé en l'air, comme on dit à la radio. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question. On a critiqué les États-Unis quand ils sont arrivés, on les critique quand ils partent. Notre auditrice dit « je ne suis pas une anti-américaine farouche ». Sur ce point-là, tout de même, puis on viendra sur la comparaison avec le Mali.
Alors, sur ce point-là, là aussi, il faut regarder l'histoire. Il y a 2 siècles, les Américains mènent une guerre en Libye, qui est totalement occultée de leur mémoire collective, de 1801 à 1805. Ils essaient faire du régime change, de renverser le régime, et à la fin ils abandonnent les Libyens qui avaient cru entre eux. Bon, on a des schémas qui se répètent. Ce fait que l'immensité américaine, la bureaucratie américaine fait qu'au fond ils passent beaucoup de temps à se mettre d'accord entre eux, et qu'une fois qu'ils ont décidé, ils veulent imposer cette vision-là sans prendre en compte les réalités du pays. Mais sur l'Afghanistan, il y a un point qu'il ne faut jamais oublier. Les Américains négocient leur retrait avec les talibans dès 2020. Il n'y a aucun représentant de Kaboul. Le gouvernement est complètement marginalisé. Donc comment voulez-vous après que ce gouvernement ait la moindre légitimité quand son grand protecteur traite avec ses soi-disant pires ennemis pour quitter le pays dans les meilleures conditions ?
Alors sur la comparaison que faisait Elisabeth, en disant attention, ça peut arriver à toute forme de pays engagé dans ce type d'opération, elle esquissait la comparaison donc avec la France et l'intervention au Mali. Comparaison n'est pas raison, qu'en pensez-vous Jean-Pierre Figu?
Je crois qu'il faut effectivement réfléchir très sérieusement. Mais la France n'a jamais prétendu, au Mali en particulier, au Sahel en général, importer telle ou telle forme d'organisation politique. Il y a juste une ligne rouge, nous ne voulons pas discuter avec les djihadistes. Voilà. Cette ligne, elle est posée. On est pratiquement dans la situation inverse de l'Afghanistan, où ce sont plutôt les régimes en question, une partie de la population qui voudrait traiter avec les djihadistes pour arrêter la guerre, et la France qui dit le contraire. Donc il faut garder ça en tête, que c'est presque l'inverse de ce qu'on a vu dans le scénario afghan.
Atik Rahimi, vous avez depuis le 15 août, depuis la chute de Kaboul, tout fait pour essayer d'exfiltrer des artistes afghans, des intellectuels et leurs familles, de les amener en France. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin combien vous avez réussi à en sauver?
Écoutez, moi j'étais pas tout seul. Il y a aussi, bien avant nous, il y avait d'autres listes, d'autres organismes qui ont essayé de sauver les artistes, les journalistes afghans. Donc c'est vrai que notre liste à nous était assez un peu longue. Nous on a jusqu'à présent presque 70 artistes journalistes plus leurs familles, ce qui arrive, on arrive à 270 ou 300 personnes.
Et ils sont où? Ils sont en France?
Ils sont en France, Europe, oui. Ils sont arrivés en France. Donc maintenant, on essaye de les, évidemment, de les envoyer dans les résidences. On cherche des résidences, etc. Et voilà. Et de l'autre côté, oui, d'autres organismes, ils ont pu apporter, comme l'artiste, jeune artiste Kobra Khadimi ou Gilda Charvadi, ou aussi une centaine de centaines. Donc, on est à peu près 600, 700 artistes avec leur famille, bien sûr.
Atik Rahimi, merci. Jean-Pierre Filiu, merci également. Je rappelle le titre de votre tout dernier livre, Le milieu des mondes, une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours. C'est publié aux éditions du Seuil. Et merci également à nos nombreux auditeurs qui intervenaient dans ce grand entretien sur l'Afghanistan.
France Inter.